Quand?
Dominique
Moret. Live.
Live.
Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas.
Radio X.
Sa feuille de route est longue, mais je vais me permettre de la réduire pour les besoins de la radio. Grand spécialiste en énergie au Cerium depuis 2020 à l'Université de Montréal, ex-délégué commercial à Hydro-Québec International. Monsieur Yvan Clich, bienvenue à Radio X. Comment ça va ce matin?
Ça va très bien, merci.
Veuillez éclairer notre lanterne concernant le pétrole, surtout ça qui nous intéresse ce matin. Deux écoles de pensée concernant ce qui arrive au Venezuela. Est-ce que c'est favorable, tout ça, à l'exploration? Parce que tantôt, on fait une entrevue avec Pierre Poilievre sur, selon lui, l'exigence, l'urgence d'avoir des pipelines et de sortir le pétrole canadien, parce que le pétrole canadien est en péril. Disons que le marché ne sera pas très favorable à cause d'une présumée potentielle surabondance des marchés. Quelle est votre vision des choses? Deux écoles de pensée, donc, entre, d'un côté, le pétrole, les coûts sont bas, donc ça n'attire pas les compagnies qui vont vouloir driller et l'exploiter. Et de l'autre, vous avez la manne qui arrive aux États-Unis qui va favoriser le développement économique. Mais au final, comment le Canada va se débrouiller dans tout ça? Je veux entendre votre vision là-dessus.
Ben écoutez, c'est une très bonne question. Je vais quand même peut-être apporter deux informations qui ne sont pas assez dites, je pense, dans les médias. C'est que le pétrole reste encore de très loin la commodité la plus échangée au monde, de un. De deux, beaucoup de gens vont dire que le pétrole est en déclin, alors qu'il y a encore une croissance de la demande. Là, on ajoute environ, grosso modo, entre 500 000 et 1 million de barils de pétrole par jour en consommation, mais plusieurs scénarios spécialistes disent qu'on va atteindre un pic PIC à autour de 115 millions de barils de pétrole dans les années 2030-2040. Donc, c'est ça la situation. Donc, c'est encore un marché qui est vigoureux. Troisième élément, c'est que ces dernières années, c'est quand même ajouté des producteurs. On parle de la Guyane, on parle des États-Unis qui accroissent sa production, le Canada qui accroît sa production, le Brésil. Donc, il y a de plus en plus de monde dans un marché qui est en croissance, mais dont on entrevoit qu'à un certain moment, il va atteindre un plateau, puis ensuite, il va décliner. Alors, c'est dans ce contexte un peu embrumé là, dans lequel on se situe. Pour le Canada, je pense que l'alternative clairement la plus intéressante est de deux ordres. Premièrement, on a déjà un pipeline qui s'appelle Trans Mountain, là, qui part de l'Alberta vers la Colombie-Britannique, qui existait depuis 1950, et dont on a augmenté la capacité, triplé la capacité en 2024. Et ça a permis d'ailleurs au Canada justement d'enfin accéder davantage au marché asiatique. Et il y a ce projet de pipeline là, qui passerait vers le nord de la Colombie-Britannique. Alors ça aussi, ce serait une voie d'accès plus simple parce qu'évidemment, l'Alberta n'a pas accès à la mer et la province la plus proche pour y accéder, c'est évidemment la Colombie-Britannique. Mais le premier ministre s'y oppose. Alors, l'autre voie d'accès également qui peut être envisagée, c'est vers l'est. Et là, évidemment, bien, ça implique le Québec. Alors, qui va décider de tout ça? Moi, je pense que, en gros, les gouvernements doivent offrir des conditions propices au secteur privé, éliminer des obstacles qui, souvent, ont fait en sorte que les projets étaient retardés, étaient contestés juridiquement. Moi, je pense que les gouvernements doivent offrir ces conditions propices et ensuite laisser au secteur privé à assumer les risques, à faire tous les calculs requis pour voir si ces investissements-là sont rentables étant donné la situation géopolitique actuelle où effectivement, comme vous l'avez mentionné, les prix s'annoncent plutôt bas parce qu'on va additionner de la capacité. Et si vous additionnez des quantités et que la demande reste relativement stable, bien évidemment, ça entraîne une chute des prix.
Keystone XL, 2017, Trump a signé des ordres à l'effet que oui, on y va. Aussitôt que Biden est arrivé 2021, il a annulé le projet. Ça a été l'une de ses premières décisions. Ce qui a conduit TC Energy à l'abandonner. Et là, lui, redevenu président, Trump a de nouveau exprimé publiquement son souhait de ramener ça. Est-ce que c'est une porte de sortie pour le Canada? Est-ce que c'est une planche de salut? Le tracé Keystone XL, qui amène donc le brut vers les raffineries du Sud, autour de la Louisiane, je pense, dans ce coin-là?
Oui, oui, dans la Louisiane et Texas, là, dans ce qu'on appelle la côte du Golfe.
Oui.
Écoutez, c'est une bonne question. La situation a déjà beaucoup, a déjà passablement évolué avec l'invasion américaine au Venezuela. Je vous explique. Le Canada produit du pétrole lourd. À l'époque, quand M. Trump était président et dans la Trump mouture 2, on a discuté effectivement de ce projet-là, mais il n'y avait pas nécessairement en plan cette capture, entre guillemets, du pétrole vénézuélien. Alors, le Canada produit du pétrole lourd, qui est configuré pour les raffineries clientes du Midwest et du sud des États-Unis. Et là, ben, le président américain, lui, qui est très fixé sur le pétrole, ben, s'est dit, ben, c'est parfait, si vous pouvez effectivement nous en vendre davantage, ça veut dire plus de quantité sur le marché, ça veut dire des prix plus bas du pétrole, des prix plus bas de l'essence. Et entre parenthèses, le prix de l'essence est très corrélé à la popularité de l'administration aux États-Unis. Là, on fait toujours un lien entre le quand les prix de l'essence sont bas, ça favorise la réélection d'un président. Alors, le président américain s'est dit tant mieux, c'est plus de pétrole. Mais là, la situation a changé parce que le Venezuela produit sensiblement le même type de pétrole lourd que le Canada. Donc, est-ce que M. Trump va se dire « Ah, moi, je vais favoriser les producteurs canadiens à nous envoyer plus de pétrole lourd » alors qu'on vient de capturer la plus grande quantité de pétrole lourd au monde avec le Venezuela? Donc, moi, je pense que le projet aussi Keystone maintenant a une nouvelle couleur. Je ne suis plus du tout sûr que c'est une carte pour le Canada envers M. Trump dans le cadre de nos négociations commerciales.
Question courte et brutale. Est-ce que le Canada est dans le trouble?
Bien, moi, je pense que à moyen terme, oui, parce que, comme je viens de le mentionner, au départ, il y a quelques semaines à peine, dans le cadre de nos négociations commerciales, on pouvait dire aux Américains, vous savez, nous, on vous vend du pétrole lourd, les Américains produisent surtout du pétrole léger. Bon, le pétrole léger, ça veut dire qu'il est moins dense, le pétrole lourd, il est plus dense, plus difficile à raffiner. Alors, nous, on vous vend ça, les raffineries américaines sont très contentes, ils n'ont aucun problème, ils veulent continuer cette relation commerciale avec le Canada. Et quelle alternative avez-vous? Bien, vous avez le Venezuela. Or, vous êtes en chicane avec le Venezuela. Donc, c'est un atout pour nous. Et là, bien là, la carte nous a été retirée parce que les Américains veulent maintenant capturer ce pétrole lourd, identique à celui du Canada. Donc, la situation a changé à 180 degrés. Donc, les Américains, dans quelques temps, si effectivement ils investissent dans les infrastructures, pourront dire au Canada, bien, vous savez quoi, votre pétrole, là, bien, vous allez devoir baisser les prix parce que sinon, nous, on a accès à maintenant à ce pétrole du Venezuela. Sinon, carrément, on va remplacer le pétrole du Canada. Donc, évidemment, c'est pour ça que en Alberta et M. Poilievre disent, ben écoutez, oui, là, ça devient encore plus urgent, c'est qu'on urgent, accède à d'autres marchés.
Vous êtes d'accord
que
avec
le marché
lui?
Américain. Ben, moi, je pense que oui, c'est clair que il nous faut une optionnalité, il nous faut une carte de négociation pour dire aux Américains, ben vous savez quoi, si vous voulez effectivement nous remplacer, ben nous, on va pas se laisser faire, là. On va essayer de nous aussi atteindre le marché asiatique parce qu'en Asie, il va y avoir une croissance de la demande en énergie au cours des prochaines décennies. Donc, moi, je pense qu'effectivement, ça devient une option importante pour l'Alberta et pour le Canada de se défaire le plus possible de cette dépendance envers le marché américain et d'accéder à un marché asiatique qui, lui, serait très content d'avoir le pétrole du Canada. Pourquoi? Ben, parce que ça fait un nouveau fournisseur et c'est un fournisseur fiable. Et ça, ça devient important parce que maintenant, les Américains disent on veut vous rentrer dans la gorge d'acheter notre énergie. Alors, d'avoir un partenaire comme le Canada qui ne fait que des relations commerciales, qui est fiable et qui va livrer la marchandise, bien, c'est sûr que le marché asiatique va être très heureux d'avoir la présence canadienne. Donc, moi, je pense qu'effectivement, un pipeline vers la Colombie-Britannique est certainement une option très importante pour le Canada. Mais le problème, c'est que le premier ministre de la Colombie-Britannique dit encore qu'il n'en veut pas.
Puis les Autochtones pleurent. Donc, c'est sûr que là, on est dans le trouble. Le Québec, là, on parle de l'Est, bien entendu. Le Québec veut rien savoir. On se souvient du tracé Trans-Canada Energy East qui passait par Montréal jusqu'à Saint-John et qui débouchait pour envoyer ça en Europe. Est-ce que vous trouvez que le Québec a une posture trop rigide? Question.
Moi, je vous ferai deux commentaires. Le premier, c'est qu'effectivement, un pipeline vers l'Est, au-delà de toute considération pour ou contre, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long, et ça prendrait beaucoup plus d'années. Donc, c'est clair que là, c'est un petit petit peu plus compliqué.
Parce qu'il passe en milieu urbain, M. Clich? Non,
il passe tout simplement à travers plusieurs provinces. Il faudrait évidemment que ça passerait évidemment à travers le Québec. Donc, c'est sûr que ça devient un problématique. Là. C'est un pipeline qui est plus coûteux, plus long à construire, donc qui a plus de risques. Mais moi, je veux quand même faire une petite nuance.
Allez-y.
Il faut faire une nuance entre les échos médiatiques là, puis tous les gens de la société civile qui se prononcent contre le projet et la majorité silencieuse. Puis dans les derniers sondages, les Québécois indiquaient que dans la nouvelle configuration géopolitique actuelle, ils appuyaient, je pense que les sondages indiquaient autour de 60 % ils indiquaient un appui là, à un projet de pipeline qui traversait le Québec, en autant effectivement qu'on en récolte des bénéfices. Donc moi, je pense qu'il faut quand même faire un certain distinguo entre les échos médiatiques puis les gens de la société civile qui sortent puis qui sont contre parce qu'ils disent on n'aura plus besoin de pétrole, etc. Puis la majorité silencieuse qui, elle, se dit, ben écoutons, dans les circonstances actuelles, si on peut jouer nos cartes de façon favorable et obtenir des bénéfices et aussi aider la province de l'Alberta à acheminer sa ressource vers d'autres marchés, ben pourquoi pas. Alors, évidemment, je ne pense pas que ça va être un projet qui va être facile. Moi, je pense que le projet, les projets viables actuellement à court terme sont de deux ordres. Le projet Trans Mountain dont j'ai parlé, qui existe déjà, on peut accroître la capacité. Vous savez quoi? Le propriétaire, c'est le gouvernement fédéral parce qu'il a repris le projet jusqu'à sa complétion et c'est un fonctionnaire fédéral qui est président de la boîte qui gère Trans Mountain. Donc, ça pourrait aller très vite d'augmenter la capacité. Et évidemment, l'autre, un autre pipeline à travers la Colombie-Britannique. Mais encore là, il y a des enjeux politiques qui s'opposent. Donc, ça ne passera pas comme une lettre à la poste.
Merci infiniment, M. Clich. Ça a été très éclairant.
Merci beaucoup, M.
Merci. Bye-bye. Très, très bon. 8h57, après la pause, you're gonna feel the pain.
Morel.
Live. Restez là. On revient dans pas long.
Live.
Radio X.